jusqu'à 19h, le Club Rouge et Bleu sur Jordan FM.
De retour avec Jean-Marc et Walter, on va profiter de la présence de Walter pour parler du centre de formation et du recrutement, puisque forcément on a beaucoup de messages de la part des supporters. On a René qui nous dit merci pour ce moment très agréable pour les supporters que nous sommes. Une question à Walter, mais comment faites-vous pour réussir d'aussi formidables recrutements que Strachan ou O'Donnell, ces joueurs qui ont un niveau rare, super pioche? Forcément, ce sont deux joueurs exceptionnels qui font monter tout de suite le niveau de l'équipe.
Mais il ne peut pas donner la recette.
Est-ce qu'il y en a d'autres en vue?
Non, mais je parle avant Romé, je parle avant Walter, parce que pour le coup, de voir évoluer le club depuis plus de 20 ans maintenant et de la manière dont ils ont transformé la mécanique et l'économie du club, il y a une fois, je m'étais amusé à essayer, mais même avec vous, de calculer le nombre de joueurs passés par le Stade Aurillacois, formés au Stade Aurillacois, qui composent maintenant les équipes du top 14. C'est un truc hallucinant quand même. Et quand tu vois que tous les ans, tu te fais torpiller tes meilleurs joueurs et que tous les ans, depuis maintenant qu'on est remonté en 2007, t'es encore là, tu survis avec un budget, comme dirait le président, hein. Un budget que tu gères en bon père de famille, mais qui est ridicule.
C'est exactement la citation.
Il faut le dire, c'est ridicule. Un budget de 5 millions en Pro D2, c'est quand tu vois des budgets à 10, 15 ou peut-être 20, je sais même pas s'il y a des budgets à 20 millions, oui, certainement, peut-être Van. Van, il doit y être largement, voilà, c'est parce que on a vu cette conversation là avec Walter au premier, juste avant d'ailleurs le titre de champion de France Espoir, sur la stratégie au niveau du centre de formation, comment on allait travailler et comment l'idée était à l'époque de faire travailler tout le monde de la même manière et de jouer de la même manière. Tu m'avais cité à l'époque les comme Toulouse, comme La Rochelle, pour que les mecs puissent monter en puissance au fur et à mesure et tout. Mais toi, t'es qu'à Aurillac quand même. T'es à Aurillac, et à Aurillac, t'arrives à faire ça. Avec un pied de nez magnifique en 2022, parce que tu tapes les Toulousains, avec certains Toulousains qui jouent actuellement en top 14. Mmh. Maintenant, je vais laisser.
Ils sont même internationaux.
Non, mais c'est magique, voilà. Et on a une cellule de recrutement qui est, on en avait discuté avec Jacques en début de saison. On dit, mais comment vous faites? Et voilà, c'est des réseaux, des trucs, et puis, voilà, puis à force, les gens connaissent, et puis tu fais confiance, et puis voilà, puis tu nous sors des Jack et des Ben, tu sais pas d'où, tu vas chercher des Lucas Oudard, tu sais pas où, tu vas chercher des Hugosson, tu sais pas où, on n'arrête pas de nous dire, mais arrêtez de chercher les mecs en national, regardez le nombre de mecs en national que t'es allé récupérer, et qui sont partis au-dessus, voilà, je m'arrête.
La question en départ, déjà? C'était Jack et Ben O'Donnell, ouais, forcément, oui. Ouais, mais c'est comment vrai, c'est un travail de longue haleine.
Aller chercher des mecs comme ça, ouais.
Oui, de longue, enfin, ce serait un peu, dire qu'il y a une, on va dire qu'on a beaucoup de chance. Voilà.
Non, oui, mais ça se provoque aussi.
Pas depuis 15 ans, quand même.
Mais disons que, on a, après, c'est une façon de concevoir, peut-être l'entraînement, la formation et le, qui est un petit peu différente. Ce qui est sûr, c'est que une des clés de la réussite, c'est quand même le travail collaboratif. Au niveau du recrutement dans tous les étages du club. Parce que bon, le grand public et vous être sensible au recrutement d'Estracam et O'Donnell, certes, où là, c'est quelque part le plus facile. Puisqu'on en voit des matchs, on en redemande si on n'en a pas assez, et puis il faut pas se leurrer, le jour où nous on a vu que ces joueurs-là, sur leurs critères, étaient bons, ils étaient pas en contact avec le Stade Toulousain. Donc c'est peut-être, et après on entame une démarche de visio avec eux, puisque c'est des joueurs qui étaient à l'autre bout de la planète, on leur parle du projet, on négocie avec leur agent et on leur propose un cadre de vie, et surtout avec, on leur vend pas le fait qu'on sera en top 14, même si un jour on devait faire comme Montauban, je vous rassure, en tout cas on refuserait pas la montée, on l'acceptera, mais on sait qu'on sera jamais un club comme ça, mais surtout pour ces joueurs-là qui cherchent à faire carrière et à briller dans le top 14, en disant que Aurillac est un club où les joueurs sont visibles. Parce que dès que l'équipe tourne bien, c'est-à-dire est dans la première partie de tableau, chaque année, il y a des joueurs qui sont en contact très avancé avec des équipes à moyen très supérieur, voire très 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 supérieur. Et comme c'est un sport professionnel, c'est aussi une carrière, donc les joueurs à un moment donné, ben il y a le goût de jouer au niveau au-dessus, il y a le fait de gagner 3-4 fois plus d'argent, c'est un ensemble, donc c'est normal qu'ils partent. Mais je reviens sur le système de détection, parce que là, comme je dis, ces deux joueurs, c'est peut-être le plus facile. C'est le travail collaboratif qu'il peut y avoir aussi avec la cellule de détection peut-être sur le centre de formation, mais aussi sur la catégorie U18, où c'est un peu les mêmes principes, puisque les meilleurs, ils sont tous identifiés et ils sont tous dans les gros clubs. Donc il va falloir qu'on arrive à voir, globalement, je crois que je te l'avais dit, le joueur que personne n'a vu, qui est bon et qui est pas cher. Mais ça, c'est valable donc ça fait beaucoup de critères, donc ça fait beaucoup de recherches. Et puis aussi, c'est croire que pour jouer au rugby, il faut peut-être pas automatiquement faire 1m98, 120 kilos. Et qu'il y a des joueurs sur des profils atypiques qui à un moment donné ont des qualités, ont d'autres qualités, et dans un style de jeu qui peuvent aussi s'exprimer au moins au niveau de la Pro D2. Donc avoir d'autres critères sur l'aspect rugby, sachant qu'il y a quand même des critères... Alors je peux pas les énoncer là et rentrer dans des choses qui seraient un peu plus techniques, mais on a nos critères. Et après, le dernier point aussi, c'est peut-être le travail collaboratif, c'est que les entraîneurs de l'équipe première, quand on recrute, voilà, on se dit tiens, on va perdre des joueurs, il faut, déjà le premier vivier de recrutement, c'est ce qu'il y a en dessous. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on va prendre automatiquement. Parce qu'il faut que les jeunes aussi se bougent, se sortent les doigts des fesses et montrent que c'est pas acquis. Mais déjà, ils sont obligés et ils connaissent les joueurs. Donc ça permet de... et le fait que les entraîneurs sont là depuis longtemps, sont issus du club, ce qui pourrait parfois croire qu'on vit entre nous, et en autarcie entre nous, mais quelque part ça permet aussi sur la durabilité de se dire ben aujourd'hui on a une demi-mêlée, là je recevais hier aujourd'hui un jeune demi-ouverture, petite pépite, c'est le terme là, de 17 ans, son niveau à lui, ben on a eu des ouvreurs, Maxime Petitjean, Anton Ocagne, Hugo Sun. Alors Hugo Sun, on l'a pas eu si jeune, mais Joris Segond, qui avait 18 ans chez nous, donc on sait, et les entraîneurs, Roméo, Mathieu, ont connu ces joueurs-là à 18 ans. Donc on peut comparer deux joueurs, et on sait qu'un a évolué comme ça, donc on se dit, ben lui, il va falloir simplement qu'il ait un peu de temps de jeu, qu'il soit dans un projet, qu'il prenne pas la grosse tête, voilà, qu'il accepte aussi de rester à Aurillac le temps qu'il faut, puisqu'on n'a jamais empêcher personne de partir. Et au contraire.
Je vais te couper, Jean-Marc. Comme ça, on fait la dernière pause.
Okay.
Et après, on est de retour avec vous pour la dernière partie de cette émission.
Pas